Chapitre 29. Le pèlerin. Avant de partir, l'abbé avait à passer chez lui. Les deux jeunes gens prirent donc le chemin de la rue du Pot-de-Fer. À peine avait-il fait 10 pas qu'un commissionnaire, auquel un homme enveloppé d'un manteau venait de remettre une lettre, se détacha de la muraille et les suivit. « Ah, tenez, dit Salvatore au moine, je parie que voilà un commissionnaire qui a affaire du même côté que nous. » Nous sommes épiés, alors, par Dieu. En effet, les jeunes gens se retournèrent 3 fois, une fois au coin de la rue de l'Éperon, une fois au coin de la rue Saint-Sulpice et une fois à la porte de l'abbé. Le commissionnaire semblait avoir affaire au même endroit qu'eux. « Oh, murmura Salvatore, c'est un homme habile que Monsieur Jacal, mais comme nous avons Dieu pour nous et qu'il n'a pour lui que le diable, peut-être serons-nous encore plus habiles que lui. » Ils entrèrent. L'abbé prit sa clé. Un homme causait avec la portière et caressait son chat. « Regardez bien cet homme quand nous sortirons, » dit Salvatore en montant l'escalier de Dominique. « Quel homme ? Celui qui cause avec votre portière. »« Eh bien ? Eh bien, il nous accompagnera jusqu'à la barrière et vous accompagnera, vous, peut-être plus loin encore. » On entra dans la chambre de Dominique. C'était une oasis que cette chambre quand on sortait de la conciergerie et de la préfecture. Le soleil couchant l'éclairait à cette heure de ses plus doux rayons. Les oiseaux de Luxembourg chantaient dans les marronniers en fleurs. L'air était pur et l'on se sentait heureux rien qu'en entrant dans ce réduit. Salvatore sentit son cœur se serrer à l'idée que le pauvre moine allait quitter cette atmosphère sereine pour aller errer sur les grandes routes de pays en pays, sous le soleil brûlant du midi, sous le vent glacé de la nuit. L'abbé s'arrêta un instant au milieu de la chambre et regarda tout autour de lui. Ah, « J'ai été bien heureux ici, » dit-il, formulant par des paroles la pensée de son âme. « J'ai passé les plus douces heures de ma vie dans cette paisible retraite, où je ne demandais de plaisir qu'à l'étude, de consolation qu'à Dieu. » Pareil à ces moines qui habitent le Tabor ou le Sinaï, il m'arrivait alors comme des souvenirs d'une vie passée, comme les révélations d'une vie future. J'ai vu passer ici, comme des êtres vivants, les songes les plus fleuris de ma jeunesse, les plus enchanteresses félicités de mon adolescence. Je n'y demandais qu'un ami. Dieu me donna cet ami dans la personne de Colomban. Dieu me l'a ôté. Mais il vous a rendu à moi, Salvatore, la volonté de Dieu soit faite. » Et, ayant dit ces paroles, le moine prit un livre qu'il mit dans la poche de sa robe, noua autour de son habit blanc une simple corde, puis, passant derrière Salvatore, il alla prendre, dans un angle de la chambre, un long bâton d'épines qu'il montra à son ami. « Je l'ai rapporté d'un triste pèlerinage, dit-il. C'est le seul souvenir matériel qui me reste de Colomban. » Puis, comme s'il redoutait de s'attendrir et d'éclater s'il restait un moment de plus, « Voulez-vous que nous partions, mon ami, dit-il. « Partons, dit Salvatore en se levant. » Ils descendirent. L'homme n'était plus chez la portière, mais il était au coin de la rue. Les deux jeunes gens traversèrent le Luxembourg, l'homme les suivit. Ils gagnèrent l'allée de l'Observatoire, prirent la rue Cassini, le faubourg Saint-Jacques, et arrivèrent ainsi, plus muets que causeurs, à travers les boulevards extérieurs jusqu'à la barrière de Fontainebleau. Ils franchirent la barrière, suivis par les regards curieux des douaniers et des hommes du peuple, mal habitués à la vue de la robe monacale. Les deux amis continuèrent de marcher, l'homme les suivait toujours. Peu à peu, les maisons se séparèrent, puis redevint plus rare le long de la route, puis enfin on ne vit plus à droite et à gauche que la plaine où commençaient à se balancer les épis. « Où couchez-vous ce soir ?» demanda Salvatore. « Dans la première maison où l'on voudra bien me donner l'hospitalité, » répondit le moine. « Cette hospitalité, mon frère, souffrait que ce soit moi qui vous la donne. » Le moine inclina la tête en signe d'assentiment. « À 5 lieues d'ici, » continua Salvatore, un peu en avant de la cour de France, « vous trouverez à gauche un petit sentier que vous reconnaîtrez à un poteau sur lequel vous verrez une croix blanche ayant la forme de ce qu'on appelle en blason une croix pâtée. » Dominique fit un second signe de tête. « Vous suivrez ce sentier qui vous conduira au bord de la rivière. » Alors, à 100 pas de là, au milieu d'un massif d'aunes, de peupliers et de saules, vous verrez, au rayon de la lune, blanchir une petite maison. Sur la porte de cette maison, vous reconnaîtrez une croix blanche, pareille à celle du poteau. Dominique fit un troisième signe de tête. Tout près est un saule creux, continua Salvator. Vous fouillerez dans le creux de ce saule et vous trouverez une clé. C'est la clé de la porte. Vous la prendrez et vous ouvrirez. Pour cette nuit et pour autant de nuits que vous voudrez, la cabane sera à vous. Le moine n'eut même pas la pensée de demander à Salvator dans quel but il y avait une maison au bord de la rivière. Il ouvrit ses bras à son ami. Les deux jeunes gens pressèrent l'un contre l'autre leurs deux cœurs gonflés d'émotion. Il fallait se séparer. L'abbé partit. Salvator resta debout et immobile à l'endroit où il venait de quitter son ami et le suivit des yeux aussi loin que ses yeux purent distinguer sa forme dans les croissantes ténèbres. Lorsqu'il eut vu ce beau moine s'en allant paisiblement et gravement, son bâton d'épine à la main, avec sa robe éclatante de blancheur et son manteau blanc flottant derrière lui, quiconque, disons-nous, eût vu partir ainsi à pied pour son long et pieux pèlerinage, ce beau moine à la démarche ferme au pas égal, se fût senti saisi tout à la fois de compassion et de tristesse, de respect et d'admiration. Enfin, Salvator le perdit de vue, fit un signe qui signifiait « Dieu te garde » et redescendit vers la ville fumante et boueuse avec un chagrin de plus et un ami de moins.